Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 20h, 21h, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Il est noir. Tout de suite, on revient. Bien, bonsoir à toutes et à tous, et c'est Il est noir, donc sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et sans plus attendre, quelques annonces.
Ouais, on va démarrer par les annonces, il y a pas mal de choses ce week-end. On vous propose déjà, si vous êtes disponible, ce vendredi 29 janvier à 16h, il y a un rassemblement de soutien à la Poste Lyon, de Lyon-Centre, pardon, en réaction à la procédure de licenciement d'un camarade syndicaliste. Il y avait déjà eu un appel il y a quelques temps, mais du coup le truc a été ajourné. Donc du coup c'est remis pour aujourd'hui. On vous relie vite fait le petit appel qu'ils ont lancé pour qu'il y ait, en espérant qu'il y ait du monde du coup ce vendredi 16h devant la grande poste place Antonin Poncet dans le deuxième. Nous, postiers dans Lyon-Centre, sommes bien décidés à ne pas laisser passer cette énième attaque de la direction de la Poste contre ses salariés, car nous sommes bien conscients et conscientes que cette procédure de licenciement contre notre collègue est la conséquence de sa lutte incessante pour défendre nos conditions de travail et la qualité de service rendue aux usagers. Ces deux aspects de notre travail qui semblent fondamentaux pour nous sont actuellement foulés aux pieds par notre direction qui cherche par tous les moyens à se débarrasser de tous ceux qui pourraient faire obstacle à sa politique sauvage de rentabilité. De plus, les faits qui lui sont reprochés pour justifier son conseil de discipline paraissent plus qu'insignifiants. Insoumission à l'autorité et propos irrespectueux envers sa hiérarchique directe. En gros, il a dit « je m'en branle ». Et puis, c'est peu après les deux semaines de grève d'octobre contre une restructuration destructrice d'emplois, entre autres, que l'annonce de la sanction contre un collègue est tombée. Il était l'un des moteurs de ce mouvement. Pourtant, comme lui, nous pensons que ces nouvelles organisations de travail mises en place actuellement par la Poste, inefficaces et insoutenables, ne sont plus acceptables. Alors, attaquer notre collègue aujourd'hui, c'est nous attaquer tous ceux qui pensent que les formes de travail devraient être plus justes, humaines et intelligentes. Ce n'est pas seulement en tant que syndicaliste CGT ou même syndicaliste tout court qui doit être soutenu, mais aussi en tant que travailleur acharné à défendre les droits de tous et toutes. C'est pourquoi nous vous appelons, voilà, syndicalistes, postiers, postières, travailleurs, travailleuses, usagers, usagères de la Poste et tous et toutes les autres, un rassemblement devant la grande poste place Antonin Poncet dans le deuxième arrondissement, donc ce vendredi 29 à 16h pendant le conseil de discipline, afin qu'aucune sanction ne soit prise à l'égard de notre camarade, facteur ou tout autre salarié de la Poste condamné pour avoir fait valoir ses droits. Donc voilà pour ce petit premier rendez-vous. Le deuxième, c'est le même jour, mais c'est avant, c'est à 14h30. Donc vous pouvez, à 13h30, même, vous tapez les deux si vous le souhaitez. Hein, voilà, ce serait quand même plutôt pas mal. Ça se passe à l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu, avec des menaces graves qui ont été portées contre des militants syndicaux CGT Sud. Ça s'est passé le 21 janvier. 7 individus sont venus dans les locaux syndicaux pour proférer des menaces. Ce sont des agents de l'établissement. Ils étaient à la limite de l'agression physique. Ils ont demandé à la CGT et à Sud de valider la mise en place des 12 heures que les deux syndicats dénoncent. Le soir, un des militants a été poursuivi par un agent de service, du service sécurité pour être agressé. La CGT et Sud ont demandé un CHSCT extraordinaire. Il aura lieu donc ce vendredi 29 janvier à 14h30 et nous appelons donc tous les militants et militantes qui le peuvent à venir à Saint-Jean-de-Dieu pour soutenir les camarades à l'entrée de l'hôpital, donc à 13h30. Saint-Jean-de-Dieu, hein, c'est route de Vienne, quartier Moulin à Vent.
Tout à fait.
Donc voilà. Ensuite, pour ce même vendredi-là, si vous voulez enchaîner derrière, si vous avez la motive et tout, rendez-vous à la Plume Noire, donc du coup à 18h30. Donc on accueille un représentant du collectif Nord Zartonk, donc du coup qui va nous parler un petit peu des luttes actuelles en Turquie, notamment du côté des Arméniens et des Arméniennes. Voilà, donc n'hésitez pas à passer, soyez à l'heure, parce que du coup le rendez-vous est à 18h30, parce que la conférence démarre à 19h. pile, parce que notre camarade donc qui intervient devra vite partir à 21h. Donc voilà, qui pourrait le temps de d'exposer tout ce qu'il a à dire et qu'on puisse lui poser toutes les questions qu'on a à lui poser. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer à la plume noire. Ensuite le lendemain, plusieurs rendez-vous aussi, hein. Il y a un rassemblement contre l'état d'urgence à 14h30 place des Terreaux. Donc voilà, donc c'est un appel un petit peu qui s'est rajouté à celui qui a des, enfin on en parlera tout à l'heure, mais du coup qui s'est rajouté à d'autres appels qui avaient été, qui émanaient d'un collectif dont on fait partie. Voilà, donc il y a ça qui s'est rajouté. Donc bon, on trouvait ça un peu limite, mais du coup on n'a pas craché sur les mobilisations. Voilà, ça sert toujours d'être dans la rue. Donc voilà, on appelle quand même à y aller à cette mobilisation du coup du samedi à 14h30 place des Terreaux. Voilà, en espérant que du coup ça puisse faire aussi un peu d'émulation et que du coup pour le 6 février pour la suite ça puisse se passer bien aussi. Donc ça c'est à 14h30. Ensuite à 16h il y a un rendez-vous place Jean Massé, voilà, pour une manifestation enfin a priori qui est autorisée parce que du coup ça a été interdit depuis l'état d'urgence, voilà, en soutien au peuple kurde. Voilà, on reparlera peut-être tout à l'heure de ce qui se passe là-bas du côté de la Turquie. Moi, là, quand même beaucoup parlé sur les émissions précédentes, mais voilà. Donc il y a une manifestation qui est appelée par les camarades kurdes, donc voilà, donc on appelle à y aller aussi. Donc ça se passe samedi à 16h place Jean Massé, je crois que ça va jusqu'à Bellecour, et puis après à Bellecour vous n'aurez plus qu'à prendre le métro et ou à Pâtes si vous avez encore de la force, et de monter sur les pentes à la Plume Noire, puisqu'à 18h30 nous accueillons deux militants et militantes du collectif Migrants 13, donc de Marseille. Voilà, ils vont nous faire un petit peu comme ils sont très calés sur le sujet, voilà, une des personnes qui vient, en plus c'est son boulot, quoi. Donc elle va pouvoir nous former un petit peu sur le droit d'asile. Donc voilà, avec tout le matériel qu'il faut avec. Nous passera aussi quelques courts-métrages qui ont été réalisés sur Marseille par ce collectif-là. Il y aura des tables de presse, tables d'infos, et puis forcément toutes vos questions. Parler un peu aussi de ce qui se passe à Lyon, forcément, mais voilà, ça peut être aussi bien de voir ce qui se passe ailleurs pour peut-être piocher dans les bonnes idées qu'il peut y avoir là-bas, parce que des fois on est un peu devant un mur, on sait pas trop quoi faire en solidarité avec les migrants et les migrantes, et là ce sera l'occasion de poser directement des questions à ce collectif-là qui bosse depuis un moment sur Marseille. Donc voilà pour les rendez-vous, je crois que j'ai rien oublié, puis on enchaînera, mais on en reparlera pour la prochaine fois, mais pour le 2 février, voilà, donc ce collectif dont je vous parlais, la collectif Stop État d'Urgence, voilà, qui regroupe quand même du coup pas mal d'orgas déjà, donc qui appelle du coup à la fin de l'état d'urgence, comme vous pouvez vous en douter, avec une réunion publique, voilà, qui aura lieu le mardi 2 février à 18h30, la salle 3 de la maison de la Guillotière, c'est au 27 rue Béchevelin, dans le 7e, et le samedi suivant, enfin le samedi qui suit, hein, le 6 février, la même semaine, une manifestation, voilà, qui sera au départ de Jean Massé à 14h, voilà, avec des demandes très claires, un levée immédiat de l'état d'urgence et de l'état d'exception permanent, abandon de la constitutionnalisation de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité, arrêt de la répression et de la stigmatisation des manifestants, manifestantes et militants et militantes des mouvements sociaux, des migrants et migrantes, des musulmans ou supposés l'être, des quartiers populaires et le respect de la liberté de manifester, de se réunir et de s'exprimer. Voilà, ça se passera le 6 février dans la rue. Voilà, il y aura plein de diffs, des collages, etc. Donc vous êtes forcément au courant, mais faites passer déjà l'info autour de vous. Il faut qu'il y ait du monde à cette manif-là pour qu'enfin qu'il y ait un rapport de force qui s'établisse dans la rue. Donc voilà pour les rendez-vous. Je crois que j'ai rien oublié. Ben, je pense pas. Je pense que ça le fait.
Mais je pense qu'il y aura nécessité de rappeler tout ça en fin d'émission quand même.
Ouais, parce que là, c'est pas mal de choses.
Vraiment chargé cette fin carrément. De semaine quand même.
Donc voilà. J'enchaîne un petit peu, et puis après on fait une petite pause.
Je suis chaud patate,
on peut y aller.
T'es chaud,
on peut y aller. Du coup, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé du coup du côté de Calais ce week-end, vous avez sûrement entendu parler, du coup il y avait une manifestation de soutien aux migrants et aux migrantes, donc ça se passait le 23 janvier dernier. Je vais vous lire le communiqué du coup du collectif unitaire d'organisation de la manifestation, parce qu'il y a un peu de bisbille. Ce samedi 23 janvier, 3000 migrants, réfugiés de la jungle, réfugiés et sans-papiers de Paris, de Marseille, de Lille et d'ailleurs, membres de mouvements de solidarité de Calais et sa région et d'autres villes. Militants et militantes venus d'Angleterre, de Belgique et d'Allemagne ont manifesté à Calais. C'est la plus grosse mobilisation sur ce sujet ayant eu lieu à Calais. Au même moment, des manifestations du même type ont eu lieu à Evros, à la frontière entre la Grèce et la Turquie, et à Lampedusa. Malgré quelques provocations très peu nombreuses de l'extrême droite, qui sont quand même assez actifs là-bas, la manifestation a eu le visage de la détermination et de la solidarité. La confiance transmise par cette magnifique manifestation a amené des centaines de migrants et migrantes à décider d'obtenir ce qu'ils revendiquent légitimement, leur liberté de circulation. Après la fin de la manifestation, débordant les forces de police, ils ont manifesté jusqu'au port pour tenter d'embarquer sur un bateau. Plusieurs dizaines ont même réussi à entrer sur un ferry à quai. Suite à cette action, la police a arrêté au moins 11 personnes solidaires et 24 migrants et migrantes. La manifestation a été la démonstration que la solidarité est un projet de société qui a bien plus d'avenir que les politiques menées actuellement, qui font de Calais une ville sinistrée et barbelée. Nous exigeons donc la libération immédiate de tous et toutes les manifestants, manifestantes arrêtées, quel que soit leur statut ou leur nationalité, et le retrait de toutes les charges. Donc voilà pour le communiqué du collectif est unitaire. Et vous avez sûrement entendu aussi parler de cet abruti facho, voilà, qui a rien trouvé mieux, enfin avec toute sa famille, hein, parce que apparemment il y a une bonne famille là dans la maison, qui n'a rien trouvé mieux d'aller provoquer à l'angle de la rue la manifestation qui passait. C'est des néo-nazis notoires du coin qui font partie des collectifs, et donc cet abruti a pas trouvé rien trouvé de mieux que de sortir une arme à un moment donné. Donc voilà, super. Sauf que bien sûr, bah la presse dire bourgeoise de masse, vas-y, bah du coup, pas parler de ça forcément, ou très peu. Ils ont même, France 2 a même été interviewé cette pauvre famille excédée par les migrants et les migrantes, sans à un moment donné se poser la question de qui ils étaient, alors que bah, c'était très simple, hein, il suffisait d'aller un peu farfouiller sur le net, de taper leur nom, et puis voilà, on trouvait qui c'était. Donc je vais vous lire un petit texte qui avait... du coup, qui a été mis sur la Horde. Quand la presse a décrit l'agression armée contre des migrants lors de la manif du 23 janvier à Calais, on a pu lire, entre guillemets, un riverain excédé brandit un fusil devant la manif de soutien aux migrants. Ou encore, ça c'était 20 minutes, à l'approche du cortège vers sa maison, un habitant excédé est sorti de chez lui. Le point. Bref, un geste d'agacement de la part d'un brave citoyen harcelé par les hordes de barbares qui passent devant sa porte. Même son arme à feu, selon la préfète du Pas-de-Calais, serait factice. Bah, du coup, ça tout va bien. Évidemment, il s'agit d'une fable que les médias et l'État ont tenté de nous vendre avant de rejeter la faute sur les migrants et leur soutien. Car la réalité, c'est qu'il s'agit d'un militant d'extrême droite convaincu depuis plusieurs années qui est habitué au maniement des armes. Donc Gaël, entre guillemets, Steinar Rougemont, âgé de 21 ans, est un skinhead néo-nazi, chasseur à ses heures perdues, qui aime exhiber des armes à feu. Mais attention, il est aussi un grand ami des bêtes, et les canards de la photo aussi, enfin il y a des photos du coup, sont certainement endormis, puisque Rougemont ne dispose que d'armes factices, ou d'airsoft, selon les dires de Fabienne Bucchio, préfète du Pas-de-Calais. En dehors des armes à feu, ce Gaël Rougemont partage avec ses amis une autre passion, le nazisme. Donc là, il y a plein de photos, vous avez sur l'article de la Horde, c'est assez frappant, hein, visuel, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut notamment voir ce Rougemont avec un certain Sylvain Von Totten, hein, devant un drapeau dont on devine qu'il représente le symbole de la SS. Voilà, Von Totten est lui aussi un parfait démocrate, hein, sa matraque télescopique que l'on voit sur l'autre photo est elle aussi probablement factice, à moins qu'il ne s'agisse de l'antenne amovible de son téléphone. Quoi qu'il en soit, le bonhomme a quand même de drôles de fréquentations. Sur une autre photo, bon, on reconnaît Von Totten, Kevin Reich, dont on a parlé longuement à cette émission, un chef de Sauvons-Calais, Charlène, entre guillemets, Blanc, la chanteuse du groupe de rock néo-nazi Northern Impact, et le très antisémite Vincent Vauquelin, leader du groupuscule Dissidence Française. Voilà, sur une autre photo, on le voit faire le service d'ordre du Parti de la France dans Pas-de-Calais, dont le chef est aussi dans le service d'ordre de Sauvons-Calais. Donc voilà, vous pouvez faire un tour si vous voulez jeter encore un petit œil sur cet article-là. En plus, moi, sa tête, c'était très rigolo parce que sur la dernière manif, je crois, du collectif Vigilance 69 qui passait par Saint-Jean, et ben, il y avait des têtes qu'on connaissait pas en face. Et ben, du coup, il se trouvait qu'il était là. Je l'ai reconnu sur la photo. Donc voilà, qui venait en découdre un petit peu. Donc voilà, donc ce gars-là, voilà, c'est bien, ce serait bien quand même que les médias fassent un minimum leur boulot et vérifient un petit peu leurs sources et les noms qui balancent comme ça. On voulait faire aussi un petit point sur toujours Calais, hein, parce que ce même jour, il y a des réfugiés syriens qui séjournaient donc dans le camp, et ont été attaqués par des hommes masqués. Les faits ont été rapportés par plusieurs ONG humanitaires. Hein. Les faits se sont produits alors que les réfugiés étaient sur le chemin du retour vers le camp après une vaine tentative de réaliser la fameuse traversée vers la Grande-Bretagne. Donc c'était dans la nuit, pas d'hommes masqués dans le centre de la ville française. Donc les faits sont produits alors que les réfugiés étaient sur le chemin du retour. Pardon, j'ai déjà dit ça. Ils ont été entourés en rue par environ 6 hommes qui, selon les victimes, portaient des uniformes sans insigne, expliquent ces organisations. Sous la menace d'armes, les victimes ont été forcées de leur remettre leur GSM et leur argent. Les réfugiés ont également dû leur donner leurs papiers et passeports sous le prétexte qu'ils pourraient partir ensuite. D'après les victimes, les assaillants avaient des armes à feu, des matraques et des barres métalliques. Elles ont également été obligées d'enlever leurs chaussures et de les abandonner. Les réfugiés ont été frappés durant une bonne demi-heure. Ils ont ensuite réussi à rejoindre le camp où ils séjournent et ont été emmenés à l'hôpital par des bénévoles, où au moins deux d'entre eux ont perdu conscience. Il est question de côtes cassées, de fractures du crâne et de la mâchoire, d'une orbite cassée et des raflures. Bon, la police judiciaire a lancé une enquête. Hein, voilà. On verra bien ce que ça donne. Hein. Et puis, toujours sur cette Pas-de-Calais, du coup, on voulait saluer les camarades parisiens et parisiennes, parce que du coup, il y avait des camarades du groupe Région Parisienne de la CEJA qui étaient à Calais, et notamment avec ce tract dont je vais vous en lire une partie. Donc voilà, violence policière frontière meurtrière face au racisme d'État, unité populaire. La CGA tient à apporter tout son soutien aux migrants et migrantes de Calais et d'ailleurs en cette journée de lutte méditerranéenne contre l'Europe forteresse pour que tombe le mur meurtrier d'Evros en Grèce. Pas de mur entre les peuples, pas de peuple entre les murs. Aujourd'hui, alors que la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière au monde, on compte près de 25 000 mortes en Méditerranée. Des dizaines de milliers de migrants et migrantes continuent d'être traqués, maltraités, chassés partout en Europe. En France, depuis son instauration, l'état d'urgence n'est pas autre chose que le renforcement des violences contre les migrants et migrantes par les politiques et discours anti-migrants, migrantes et islamophobes, par la criminalisation des migrants et des migrantes. L'arrestation récente d'une vingtaine de grévistes de la faim dans un centre d'hébergement de Paris, dénonçant l'indignité de leurs conditions de vie, a été un coup de plus pour faire taire les migrants et migrantes qui s'organisent. Les violences contre eux et elles, ceux et celles de Calais, pardon, et aux frontières sont des appels au déchaînement de violences contre les migrants et migrantes. Résistons par tous les moyens. Les agressions des nervis d'extrême droite contre celles-ci et ceux-ci de la jungle se multiplient dans l'impunité et la complicité de l'État. Le renfort des policiers aux actions des milices fascistes locales contre la jungle est vérifié. Le gouvernement socialiste français met en scène son pseudo-humanisme et sa prétendue responsabilité annonçant se répartir 120 000 migrants et migrantes avec les États européens. Ceci pour mieux ficher, refouler, enfermer, expulser tous et toutes les autres en accroissant encore leur arsenal répressif. C'est d'année en année que les lois et mesures sécuritaires s'empilent pour transformer la violence de l'exil au crime. À la division entre immigrés et nationaux viennent s'ajouter une nouvelle catégorisation, celle entre les bons et bonnes réfugiés qui fuient les guerres, enfin certains et certaines, et les mauvaises migrants et migrantes, entre guillemets économiques, voleurs et voleuses de travail, de prestations sociales et terroristes en puissance. Face à ce tri abject, la coordination des groupes anarchistes réaffirme avec force qu'aucune humaine n'est illégale. Pour nous, il n'y a pas, il n'y aura jamais de bons et de bonnes, ni de mauvais et de mauvaises migrants et migrantes, que des opprimés face à des minorités dirigeantes qui tirent profit de l'oppression du plus grand nombre. Quelle île fuit la misère ou la guerre, tous et toutes les migrantes sont les victimes des mêmes exploiteurs et de leurs relais à la tête des États. Colonisation hier, néocolonialisme aujourd'hui, c'est le pillage organisé des ressources du Sud par le capitalisme occidental et les potentats locaux qui forcent les gens à fuir. Les frontières et leurs conséquences, le nationalisme sont l'arme des minorités dirigeantes. En divisant les peuples, en les jetant au besoin les unes et les uns contre les autres, elles entravent l'indispensable solidarité internationale entre tous et toutes les exploités. Voilà, face à la forteresse Europe, une seule solution, brisons les frontières, opposons une solidarité de classe et internationaliste au racisme et à l'impérialisme occidental. Donc voilà, et pour finir sur cette longue page, mais en même temps c'est un sujet d'actu hein, sur les migrants et les migrantes.
Tout à fait.
Je voulais juste continuer avec le petit bouquin dont on vous parle depuis quelques semaines, hein, qui s'appelle « Petit guide de survie, répondre aux préjugés sur les migrations ». Voilà, vous avez déjà lu 4-5, voilà, il y en a 6 qui sont sortis pour le moment. Je vais continuer. Donc c'était le préjugé, c'était l'immigration renforce le chômage et la crise. Et voilà l'argumentaire que vous pouvez du coup donner à vos collègues de boulot, vos voisins, vos voisines, un peu avec tout le monde. Lorsque les choses vont mal chez nous, il est courant de désigner des boucs émissaires. Souvent, ce sont les immigrés qui en font les frais. On les accuse tantôt de voler le travail des Français, de faire grimper le taux de chômage des nationaux, ou de faire le jeu des employeurs en faisant pression à la baisse sur les salaires. Sous un vernis entre guillemets humaniste, d'autres diront qu'il ne sert à rien de les laisser venir chez nous si on n'a pas de boulot à leur offrir. Voilà, discutons avec la fameuse tante française de la réalité du marché de l'emploi en France et du bénéfice du travail immigré pour l'économie française. Dans certains secteurs d'activité en France, il y a une pénurie chronique de main-d'œuvre. Le bâtiment, les restaurations, le textile, l'habillement, les hôpitaux, le nettoyage, les aides à la personne, l'agriculture saisonnière manquent souvent de personnel. Beaucoup d'immigrés travaillent dans ces secteurs, souvent en situation illégale. Les employeurs profitent ainsi d'une main-d'œuvre malléable, corvéable et que l'on peut sous-payer. Si le travail illégal est théoriquement interdit, les pouvoirs publics ferment pourtant les yeux sur les embauches de clandestins devenus un maillon essentiel de l'activité économique en France. Pour l'ONU, l'effet d'éviction pour les travailleurs non immigrés n'est pas prouvé car les conditions de travail sont dans ces secteurs en rebut de bon nombre. En refusant d'améliorer les salaires et les conditions de travail qui rendent ces métiers répulsifs pour tout autre salarié que des clandestins, les employeurs entretiennent le système d'exploitation. Seule une régularisation de tous les travailleurs et travailleuses sans papier pourrait mettre fin à l'exploitation dont ils sont victimes. Entre 2008 et fin 2010, la France a perdu 430 000 emplois, dont 70% dans l'industrie. Ce sont les licenciements boursiers, licenciements alors que l'entreprise est en bonne santé, et les délocalisations qui consistent pour une entreprise à transférer ses activités dans un pays où le droit du travail est plus souple et la main-d'œuvre moins chère, qui mettent les salariés français à la rue et non les émigrés. Sans eux, la crise serait certainement plus grave qu'elle ne l'est aujourd'hui. Si l'on se place du point de vue du pays d'accueil, l'afflux de travailleurs étrangers est sans conteste un atout pour l'économie. Ils consomment, augmentent la demande de biens et services, etc., etc. Enfin, d'un point de vue démographique, l'immigration contribue au rajeunissement de la France dans un contexte d'Europe vieillissante et surtout ça mélange les gens et c'est plutôt bien. Donc voilà pour cette grosse page migrants et migrantes. On y reviendra certainement dans les semaines qui viennent de toute manière parce que la solidarité reste à s'organiser. Je finis vite avant la petite pause musicale par vous rappeler qui est une collecte permanente à la Plume Noire lors des permanences, mercredi 17h-19h, samedi 15h-19h. Il y a tout sur le site cgalion.waton.org, ce sera en fin de semaine notamment sur Rebellion, voilà, avec tout ce que vous pouvez éventuellement apporter, tout ce qu'il y a de besoin, puis nous après on s'occupera de redispatcher tout ça. Et le lundi soir, tous les lundis soirs à 18h, pareil à la Plume Noire, au 8 rue d'Hydrou, des cours de langue, voilà, pour des nouveaux débutants, voire très débutants. Donc là on a besoin soit de personnes qui donnent la main pour les cours, soit que vous passiez l'info aux premiers et premières concernés, ce qu'on a commencé à faire de notre côté, mais chacun son réseau aussi, pour éventuellement qu'ils viennent profiter de ces cours-là. Et ensuite, on fait un appel aussi pour du matériel, voilà, quel qu'il soit, pour nous aider aussi à rendre ces cours plus vivants. Donc, c'est matériel audio, vidéo, ça peut être tableau blanc, ça peut être fourniture scolaire, ça peut être des ouvrages, notamment de français, langue étrangère, la méthode FLE, pour les primo-arrivants, etc., etc. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à faire passer le mot, puis à vous-même passer à la Plume Noire, soit pour la collecte ou pour les cours. Tout bon? Bah tout bon, on peut faire la première petite pause du coup.
Une petite pause musicale,
je vous en prie,
ça vous dit. Eh bien on va écouter Brigitte Fontaine et Areski Belkacem qui nous interprètent Vous et nous.
Nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous, nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous, dévouez-nous, dévouez-vous, vouez-vous à nous, vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous, avouez-nous, avouez-vous, nouez-vous à nous, nouez-nous à vous. Nous sommes tous nous, vivons-nous. Nous sommes tous vous, vivons-nous. Fions-nous à nous, louons-nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Nous sommes des fous, nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux, nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des, nous sommes des, nous sommes des, nous sommes des poux, des bijoux.